Alors, pour ceux qui ont participé à l'étude biblique mercredi soir, vous reconnaîtrez le passage parce que nous allons lire quelques versets d'Ésaïe chapitre 29. On va lire les versets 13 à 16. Donc, d'Ésaïe chapitre 29. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent: qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier: il n'a point d'intelligence? C'est donc un passage qui va montrer que le Seigneur appelle toujours à la foi, mais que finalement la foi est comme un test, c'est comme une épreuve pour voir ce qui se passe vraiment dans notre cœur. Alors, dans ce passage d'Ésaïe, depuis le milieu du chapitre précédent, depuis le milieu du chapitre 28, Ésaïe donc s'adresse à Jérusalem, c'est-à-dire donc à l'élite en termes politiques et religieux du peuple d'Israël, du peuple de Juda. Et dans le chapitre 28, il y a quelques semaines dans l'étude biblique, on avait donc vu que ces gens, ces hauts dignitaires, hauts placés, soit sur le niveau politique ou religieux, finalement se considérer comme trop important pour être concerné par la parole de Dieu, trop important pour être repris par la parole de Dieu, trop intelligent pour que cette parole qu'ils considéraient comme étant trop simpliste puisse les concerner eux. Dans le chapitre 28, versets 9 et 10, on voit la réaction de ces personnes devant le prophète qui disent: mais à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et donc, quand on a fait ce passage dans l'étude biblique, on a vu en particulier que ce deuxième verset, c'est en réalité dans l'hébreu, c'est comme un comptine pour enfants, où ces gens vraiment, ils se moquent en disant: mais pour qui tu te prends, le prophète, d'oser nous reprendre, d'oser nous remettre en question avec tes histoires pour enfants, nous qui sommes les sages du pays, nous qui sommes bien trop intelligents pour cela. Donc Dieu annonce à travers le prophète Ésaïe un jugement à venir contre Jérusalem à cause de cette attitude, puisque finalement la Bible nous dit que Dieu ne laisse jamais impunis ceux qui se moquent de lui. Et surtout, ce qu'on voit dans ce passage qu'on a lu ce soir, en particulier dans le verset 14, c'est que Dieu va envoyer son jugement contre Jérusalem, mais d'une manière très appropriée. Verset 14, donc, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Dieu dit: je vais les juger, je vais les punir en leur envoyant des miracles. en agissant de manière miraculeuse. Parce que finalement, s'il y a une chose que l'intelligence humaine ne veut pas reconnaître, c'est lorsque Dieu agit de manière miraculeuse. Parce que ça dépasse notre entendement, ça dépasse nos limitations, ça nous montre que Dieu est plus grand que nous. Et donc, la nature humaine se rebelle contre cette notion de Dieu qui fait des miracles. Finalement, pour lui, c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien d'exceptionnel de pouvoir faire des miracles, si ce n'est que, généralement, il a mis en place, il a créé l'univers avec certaines règles, mais en tant que Dieu, il se réserve le droit d'outrepasser ces règles, d'outrepasser les manières naturelles de faire les choses, et se garde le droit d'intervenir comme il veut, quand il veut. Mais surtout, les miracles font appel à la foi. Ce sont des occasions où Dieu nous demande de lui faire confiance. Et bien évidemment, la Bible nous dit que le salut est par la foi. La foi est toujours centrale au projet de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5, il est question d'Enoch qui donc n'a point vu la mort parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous dit, venez à moi, mais pour cela, il va falloir exercer la foi. Et donc, le plan du salut que Dieu nous a révélé dans la Bible est construit sur des miracles. Dieu a agi de manière miraculeuse et fait appel à notre foi. Si vous voulez, le premier miracle dont on pourrait parler, c'est le miracle du Créateur. Hébreux chapitre 11 à nouveau, ce grand chapitre au sujet de la foi, dit dans le verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc le premier aspect de la foi, premier appel à la foi, concerne notre création, concerne le fait que Dieu nous a créés à partir de rien. C'est le premier miracle de toute l'histoire. Dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute la création, nous dit la Bible, dépend du Seigneur. C'est lui qui l'a fait à partir de rien. Est-ce qu'il peut avoir un miracle plus grand que de faire apparaître tout l'univers, toute la matière à partir de rien. Finalement, c'est le Dieu qui simplement existe, ce Dieu qui peut dire en tout temps « Je suis » qui a tout créé. Et cela à partir de rien, uniquement par sa parole. Mais c'est une question de foi, nous dit l'Épître aux Hébreux. Parce que ce Dieu qui existe, qui a toujours existé, qui était là et donc qui a appelé toute chose à exister, lui ne cherche pas à justifier son existence. Il fait appel à la foi. Donc c'est par la foi que nous croyons que nous avons été créés, que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Quand on regarde dans Genèse chapitre 1, verset 1, aucune explication d'où vient Dieu, qui est Dieu, comment il est, tout simplement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aucune recherche de nous expliquer, de nous justifier, quoi que ce soit. Il nous démontre la réalité, il dit, à vous de prendre ou de laisser. À vous de me croire qu'au commencement, j'ai tout créé à partir de rien. Et si j'ai dit tout à l'heure que c'est le premier appel à la foi, premier aspect de notre foi dans le plan du salut, c'est parce que finalement, sans cette réalité de la création par Dieu, si on ne croit pas que c'est Dieu qui est notre créateur, que c'est Dieu qui a tout appelé à l'existence, le reste du plan du salut n'a aucune utilité, aucune raison d'être. Il y a quelques années, on a entendu le témoignage d'un missionnaire qui travaillait dans une mission spécialisée pour apporter l'évangile dans des endroits reculés qui n'avaient jamais auparavant reçu l'évangile, jamais entendu l'évangile. Et il disait que venant des pays occidentaux, les premiers missionnaires, ils ont dit l'essentiel, c'est le message de Jésus-Christ, c'est le message de l'évangile. Donc, ils allaient dans ces tribus leur annoncer avant tout la venue de Jésus, et puis comment Jésus était mort, ressuscité, et ce qu'il avait fait pour nous. Il a dit, le seul problème, c'est qu'ils se sont rendus compte, après un certain temps, que cela ne leur parlait pas. Cela n'avait aucun effet. Parce qu'ils se sont dit, c'est sympa, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il nous dit qu'il veut nous sauver, mais nous sauver de quoi? On n'a pas besoin d'être sauvé. On est très bien là où on vit très bien, on n'a pas besoin d'un sauveur. Et donc finalement, ils ont commencé à réfléchir et en discutant avec ces gens, ils se sont rendus compte qu'avant de leur parler de Jésus-Christ qui est venu comme sauveur, il fallait commencer tout au début avec Genèse, avec la création, et puis de là, comment donc Dieu emmenait l'histoire jusqu'à la venue de Jésus. Et ils ont dit qu'une fois qu'ils commençaient à leur expliquer que Dieu avait créé la terre, que Dieu avait mis en place des règles, que Dieu avait demandé des comptes aux êtres humains, là tout d'un coup, ils étaient intéressés par la venue d'un sauveur. Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin d'un sauveur pour entrer en contact, entrer en relation avec ce Dieu qui avait tout créé. Dans le verset 16, Esaïe dit, « Mais quelle perversité est la vôtre ? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait ?» Finalement, ces gens à Jérusalem ne s'intéressaient pas à Dieu parce qu'ils avaient complètement perdu la notion que Dieu était leur créateur. Que Dieu avait tout créé à partir de rien et que si eux, ils étaient là, c'était uniquement parce que Dieu les avait créés et surtout parce que donc, si Dieu les avait créés, Dieu avait tous les droits sur eux, sur l'univers dans lequel ils vivaient. Dieu avait le droit d'imposer ses propres règles. Dieu avait le droit de leur demander de lui rendre des comptes. Et par leur attitude, donc, ils reniaient cela. On a vu dans Hébreux 11, verset 6, là où l'auteur dit, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si on ne croit pas que Dieu existe, que Dieu est ce créateur qui est au-dessus de nous, effectivement, on n'a pas besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin de quelqu'un qui intervient pour nous parce qu'on n'a personne à qui rendre des comptes. On n'a personne qui peut nous demander des comptes. Sauf que la Bible nous dit que si on a cette attitude-là, on est en train de se voiler la face. Et l'histoire du peuple de Jérusalem nous montre que tôt ou tard, on a la très mauvaise surprise d'apprendre que si, ce Dieu créateur existe, il a mis en place ces règles qui nous demandent de respecter et que il nous demande de lui rendre des comptes et qu'on a donc besoin d'un sauveur pour nous permettre de nous approcher de lui. Pour ça que finalement, première étape du processus du salut dans le Nouveau Testament, ça commence par la repentance. Le fait de reconnaître que Dieu a mis ses règles en place. Le fait de reconnaître que nous sommes des pécheurs devant ce Dieu créateur qui a tous les droits sur nous et qui a surtout le droit de nous demander de lui rendre des comptes. Pas pour rien que l'être humain a toujours essayé de se débarrasser de ce Dieu créateur pour trouver d'autres explications de son existence, pour se libérer de ces règles que Dieu a mises en place et de ces comptes que nous devons lui rendre. C'est aussi ce qu'a remarqué David dans le psaume 1er, quand il parle de ces gens qui cherchent à se débarrasser du règne de Dieu, en disant « débarrassons-nous de ces chaînes, rejetons ce Dieu au-dessus de nous. » Donc, premier miracle dans le plan du salut, c'est le miracle du Créateur qui nous a créés à partir de rien et donc qui a tous les droits de nous demander, de nous exiger des comptes. Mais après ce miracle du Créateur, Dieu aussi est intervenu par les miracles du Rédempteur. L'histoire du Rédempteur est tout aussi miraculeuse que l'histoire du Créateur. Et j'ai mis exprès de mettre les miracles au pluriel. Et quand je parle des miracles du Rédempteur, ce n'est même pas dans le sens de tous les miracles que Jésus, notre Rédempteur, a accomplis lorsqu'il était sur terre. Et il y en avait. Jean chapitre 20. Verset 30 nous dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et puis à la fin du chapitre suivant, chapitre 21, Jean écrit « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. » Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc Jésus a accompli tant de miracles. Mais même au-delà des miracles qu'il a accomplis, déjà par sa personne, Dieu nous présente avec des miracles et fait appel à la foi dans ces miracles. Il y a du miraculeux au début de la vie de notre Rédempteur, à la fin de sa vie. Déjà au début, il y a la naissance miraculeuse de Jésus. C'est bon, on y pense en ce moment, vu qu'on est mi-décembre. Mais dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38, il est question de cette nature miraculeuse de la naissance de Jésus. Au sixième mois, donc Luc 1, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, je ne prétends pas être le plus grand scientifique qui n'ait jamais existé, mais je connais au moins autant que Marie, dans la mesure où effectivement je sais que une vierge qui n'a jamais couché avec un homme normalement ne peut pas avoir un enfant. Parfois on nous accuse en tant que chrétien protestant de ne pas croire dans la vierge. Bon, si c'est dans le rôle médiatrice. Alors effectivement, nous croyons ce que dit la Bible dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais nous croyons tout à fait dans le fait que Jésus est né de manière miraculeuse, né d'une vierge. Et nous voyons la réaction de Marie qui dit à l'ange, mais comment est-ce possible ? Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Même une vierge peut avoir un enfant si Dieu décide que cela va être le cas. Et en Matthieu chapitre 1, verset 20, il l'appuie à nouveau. Lorsque Joseph se demande si sa fiancée n'aurait pas commis l'adultère, dans Matthieu 1, verset 20, comme il y pensait, « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Par sa naissance, donc, Dieu nous appelle à mettre notre foi dans la personne de Jésus, de croire que Jésus n'est pas un homme quelconque, mais qu'il est véritablement Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est venu, puisque le Saint-Esprit a déposé cet enfant dans le corps de Marie pour que nous puissions avoir un sauveur qui ne soit pas atteint du péché, qui n'est pas reçu, qui n'est pas descendant direct d'Adam en ayant reçu cette nature de péché que tout être humain descendant d'Adam a reçu. Il fallait que Jésus soit parfaitement pur, sans péché, puisque finalement la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est dans notre ADN reçu depuis que Adam ait fait introduire le péché dans l'histoire. 1 Corinthiens 15, verset 21, « Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il fallait donc que Jésus échappe à ce sort qui soit tombé sur la descendance d'Adam, qui vient de par nos parents, par la nature humaine que nous recevons lorsque nous sommes conçus, qui nous mène à la mort. Tous meurent en Adam, mais Christ n'allait pas mourir par lui-même, pour lui-même, à cause de sa nature. S'il est mort, c'est pour notre péché qu'il est mort. Lui n'avait aucune raison de mourir, puisque le péché, ça conduit à la mort. Mais lui, il est né sans péché, à part cette naissance miraculeuse. Mais après cela, à la fin de sa vie, nous trouvons peut-être un miracle encore plus grand, si on peut comparer la grandeur des miracles, puisque Jésus effectivement est mort à notre place, portant notre péché, mais après, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Qui veut dire finalement, si on a foi, que les choses se sont passées telles que Dieu les révèle. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mais qu'après donc, il est revenu à la vie. Paul parle donc de Jésus ressuscité le troisième jour, qui après s'est présenté à plusieurs, donnant des preuves de sa résurrection. C'était déjà un miracle que Dieu meure, que Jésus meure. Normalement, Dieu ne peut pas mourir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris un corps à 100% humain, sans être atteint du péché. Mais miraculeux que quelqu'un qui n'ait jamais péché meure. C'est le signe qu'il a pris notre péché sur lui. Mais miracle également que l'homme qui est mort ressuscite et puis inaugure la résurrection pour nous tous. Toute l'histoire de Jésus donc concerne le miraculeux. Dieu effectivement a agi de manière miraculeuse dans la vie de Jésus, dans la personne de Jésus. Il nous appelle à placer notre foi en lui, notre confiance en lui. Les miracles donc font appel à la foi. Romains chapitre 4, verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, en parlant de l'expérience d'Abraham. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Le miracle que Dieu a accompli en Jésus-Christ fait appel à la foi pour nous qui croyons. Dieu a fait écrire que cette foi lui fut imputée à justice pour nous encourager, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Dieu fait appel à la foi pour que son plan du salut devienne efficace. Pour que ce salut réalisé par Jésus-Christ sur la croix nous couvre. Romains chapitre 1, verset 16. Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est d'ailleurs le sens de ce que nous avons lu tout au début dans Ésaïe 29. Ça pourrait sembler étrange que Dieu dit « Je vais punir ce peuple, je vais exercer mon jugement contre ce peuple en agissant de manière miraculeuse. » Normalement, on considère des miracles comme quelque chose de positif, n'est-ce pas? On prie pour qu'il y ait des miracles. Alors pourquoi Dieu dirait bah, « Mes miracles vont être un jugement, le moyen de jugement contre ce peuple. » Ben, c'est parce que, comme on en a vu tout à l'heure, lorsque Dieu agit de manière miraculeuse, il fait appel à la foi. Le miraculeux a besoin de la foi. Autrement, ben, on cherche à trouver toutes sortes d'explications naturelles pour essayer de dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Quand Dieu agit de manière miraculeuse, soit on doit le rejeter, soit il faut accepter avec foi et placer notre confiance en lui. Celui qui se croit trop intelligent pour croire dans les miracles, pour croire dans ces miracles qui sont fondamentaux au plan du salut, bah, tout ce que Dieu a fait, finalement, ne lui sert à rien. Il se condamne lui-même, puisqu'il refuse de reconnaître ce que Dieu a fait. Il refuse de placer sa foi dans ce que Dieu a fait. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Paul, donc, cite Ésaïe 29 en parlant de l'Évangile. Et il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dieu, comme il avait dit en Ésaïe 29, a agi de manière miraculeuse dans son plan de salut pour que aucun être humain ne puisse se glorifier, comme va dire Paul dans un autre passage, à travers ce plan. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le recevoir avec foi. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nul l'intelligence des intelligents. » Certains croient qu'il faut être bête pour imaginer que Marie était vraiment vierge lorsque Jésus est né. D'autres croient qu'il faut être bête pour croire qu'un homme mort puisse ressusciter d'entre les morts. On va pouvoir trouver toutes sortes d'explications autres pour dire que non, non, il n'y a pas eu de miraculeux, il n'y a pas eu de Dieu qui agissait là-dedans parce que ça offense notre intelligence. Dieu dit, j'agis exprès de telle manière à détruire la sagesse des sages et rendre nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu a agi de manière miraculeuse dans le plan du salut pour nous obliger à reconnaître qu'il est Dieu si on veut bénéficier de ce plan de salut, pour que rien ne puisse dépendre de nous dans ce plan de salut, pour qu'on soit obligé de reconnaître notre petitesse à côté de lui, de reconnaître que c'est lui notre créateur, que c'est lui notre rédempteur et que nous sommes dépendants pleinement et entièrement de lui. Pour ça, finalement, que j'ai parlé du test de la foi. Dieu dit, je vais agir contre ce peuple par des prodiges et des miracles pour rendre nul leur soi-disant intelligence et sagesse. S'ils se croient trop intelligents pour croire dans ce que j'ai fait, je ne peux rien pour eux. Ce serait le jugement contre eux. Mais pour celui qui a foi dans ce que le Seigneur a fait, pour celui qui accepte de tout son cœur ce que Dieu a fait, ce test est réussi. Il passe ce test haut les mains. 1 Pierre chapitre 1, verset 4, pardon, 1 Pierre chapitre 2, pardon, versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je vais agir, dit Dieu, de manière miraculeuse, comme jugement contre ce peuple, pour que ceux qui se croient trop intelligents pour m'écouter, refusent le tout, refusent de croire en moi. Se heurte contre cette pierre d'achoppement et ce rocher de scandale. Par contre, pour ceux qui réussissent ce test, pour ceux qui placent leur foi en lui, qui croient dans sa parole, Pierre dit l'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis et ont obtenu miséricorde. Que ce message de ce que Dieu a fait puisse trouver foi dans notre cœur. N'excluons pas de notre cœur ce que Dieu a fait en disant « je suis trop intelligent ». Ça, ce sont des histoires pour les enfants. D'accord, on raconte ça en bas à Noël pour les enfants. Mais moi, je suis au-dessus de ces choses-là. Moi, je suis trop intelligent pour croire dans ces miracles. Dieu dit, je vous mets à l'épreuve. Cette épreuve de la foi. Est-ce que vous avez cette foi qui croit en moi, qui croit dans ce que j'ai fait? Si tel est le cas, ce ne sera pas un message de jugement, ce ne sera pas une pierre d'achoppement ni un rocher de scandale. Ce sera au contraire cette pierre angulaire, choisie, précieuse, que vous puissiez prendre comme fondement et qui fera que vous ne serez point confus, mais que vous aurez donc cet honneur devant les hommes et devant Dieu, le jour où Jésus reviendra et où nous entendra ces paroles de récompense et de félicitations de la part de notre Seigneur. J'espère que nous tous, nous allons effectivement réussir ce test, réussir cette épreuve et placer notre foi dans ce Dieu miraculeux, ce Dieu créateur qui nous a fait à partir de rien, qui est celui qui a tous les droits de nous demander des comptes, et ce Dieu qui, par miracle, est intervenu pour nous sauver de nos péchés.